Vous écoutez France Culture.
Pourquoi vous m'avez fait venir ?
Il m'a dit que je me rends ici ce matin, qu'il me présenterait à elle, qu'il y serait avant moi et que s'il n'y était pas, je demande une mademoiselle Marton.
Je suis un businessman, mais en même temps, j'ai pas envie de perdre mon temps.
Elle a plus de 50 000 livres de rente, tu vois.
Et vous ? Vous n'avez rien.
Bah, tu me dis qu'elle est extrêmement raisonnable.
Tant mieux pour vous, mais tant pis pour elle.
Ça m'intéresse à condition de ne pas faire d'essai.
Une émission vénale ce soir, le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de confidences, d'escrocs, de faux, de stratagèmes au cinéma comme au théâtre et même d'Isabelle Huppert. Avec Catherine Breillat qui signe Abus de faiblesse, un film sur les liaisons dangereuses entre une cinéaste et son acteur. Un nouveau manifeste cinématographique au bord de l'autofiction, mais juste au bord. Claire Maillot.
Une projection fictionnelle dans le corps d'Isabelle Huppert pour une réflexion sur la dépossession de soi, résumée dans cette réplique. C'était moi, mais c'était pas bon.
Le questionnaire du lundi de Manu Farine pour l'invité qu'elle rencontre le week-end. Ce soir, ce sera la chef monteuse Sarah Turoche. Et puis nous recevons Louis Garrel qui joue aujourd'hui les fausses confidences de Marivaux dans une mise en scène de Luc Bondy, soit 10 ans exactement après la fondation de sa propre compagnie, d'ores et déjà. Benoît Lagan.
Retour au théâtre avec Marivaux pour Louis Garrel qui a débuté au conservatoire en jouant entre autres une scène des Caprices de Marianne de Musset.
La programmation musicale Mathieu Conquet ce soir, Rocky.
Vous traduisez rocailleuse ou chancelante, ou vous pensez boxe si ça vous arrange, c'est un peu tout cela et tout autre chose. Ils joueront Chase de Cool en direct.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture avec Xavier Martinet qui s'intéresse ce soir au cinéma espagnol. Et puis on retrouvera les brèves de Benoît Lagan. Bonsoir Xavier Martinet.
Bonsoir Laurent.
Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie des Goya, qui sont les Césars du cinéma espagnol, a pris une tournure plutôt politique. Outre les propos de certains en faveur de l'avortement, c'est l'attitude du gouvernement envers les milieux du cinéma qui reste le principal motif d'inquiétude, mais surtout de colère.
Et oui, puisque d'ailleurs cette année, après les critiques qu'il avait essuyées en personne et même en direct en 2013, le ministre de la Culture était absent de la cérémonie, ce qui lui a d'ailleurs valu le titre de ministre de l'anticulture de la part de l'acteur star Javier Bardem. Plus grave peut-être et moins personnel, ce sont les propos des réalisateurs et du président de l'Académie du cinéma espagnol qui rappellent le sombre tableau espagnol depuis 2 ans, qu'on évoque d'ailleurs ici régulièrement. Sur fond de TVA qui ne baisse pas, elle est toujours à 20%, ce sont 400 salles de cinéma qui ont fermé et une émigration aujourd'hui de centaines de personnes du secteur de la production en Amérique ou en Europe. Ajoutez à cela une loi de financement prévue au début de l'année et qui n'arrive pas, en tout cas pour le président de l'Académie du cinéma espagnol, Enrique González. C'est un acte héroïque de faire un film et puis c'est la punition des milieux du cinéma de gauche par le gouvernement de droite qui continue.
On a produit un 30% moins de films, mais le plus important c'est que les films qui se sont produits, au moins 80% de ces films ont eu des budgets très réduits et même parfois ridicules. Et ce qui s'annonce pour l'année prochaine, c'est plus ou moins pareil. Il y aura 4 ou 5 ou 6 films qui auront un financement plus ou moins fort, parce qu'il y a la télévision qui intervient dedans, mais le reste des films, et je vous dis sérieusement, ça serait à 100 000, 125 000 euros, 200 000 euros, on ne peut rien faire avec. Les films espagnols qui sont déjà bon marché pour le marché européen, disons, pour la moyenne européenne, un film espagnol normal est entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Ces films, maintenant, c'est des films de grand budget. Et c'est pas seulement dans la production, dans l'exploitation, c'est des milliers de postes de travail, c'est une folie en ce moment d'une destruction qui n'a pas vraiment de raison d'être, non ? Donc ça se fait pour des raisons sûrement politiques.
D'ailleurs, le gouvernement espagnol envisagerait une baisse de la TVA à 10% sur les œuvres d'art, mais pas sur le cinéma.
Et non, il n'en est pas question pour le moment, malgré un certain nombre de réunions. Et pour le moment, donc pour les 100 films qui seront produits l'année prochaine, on s'oriente vers une sorte de cinéma low cost, comme le disait Enrique González. Cette année d'ailleurs, même dans le palmarès des Goya, le film La Herida, par exemple, La Blessure, qui a remporté le prix de la meilleure actrice, a coûté seulement 400 000 euros. Rares sont ceux, me dit Enrique González, rares sont ceux de l'équipe qui ont été payés. Alors, une industrie à bout de souffle aujourd'hui face à un gouvernement qui voudrait étouffer un cinéma d'opposition, eh bien, pas si sûr. Certains, en tout cas, pourraient tirer leur épingle du jeu. Par exemple, la société, c'est original, vous allez voir, de production et de distribution Intmed, qui est financée, elle, par une église évangéliste aux États-Unis, vient de se créer en ce moment en Espagne. Son directeur, Joel Arellanes, vient également d'en réaliser le premier film. Il s'appelle En apathie, un titre évocateur pour une histoire de rédemption, mais un film coûteux avec un casting plutôt prestigieux. Alors, sans en donner son coup, vous allez voir que Joel Arellanes a fait son étude de marché.
C'est sûr que la crise nous a donné accès à une équipe technique et même à des acteurs qui nous auraient coûté beaucoup plus cher il y a quelques années ou qui n'auraient tout simplement pas voulu participer. Alors d'un côté, oui, il y a une part difficile, beaucoup de complications, mais d'un autre côté, c'est vraiment une opportunité pour nous. Vous voyez, le film aborde des thèmes très importants en ce moment dans la société espagnole, notamment pour cette génération de jeunes, les ninis, qui n'ont pas de travail et ne font pas d'études. Il y est question de la drogue, du sexe. Alors oui, je suis complètement d'accord avec Enrique González. À chaque étape du projet, quand on a voulu produire, tourner, distribuer, il y a des gens qui nous ont traités de fous. Alors aujourd'hui, avoir fait ce film, c'est un vrai miracle.
Un vrai miracle, donc une autre manière de comprendre un film, une manière de faire un film héroïque. Le film sortira en tout cas en salle le 9 mai en Espagne. Et le cinéma évangélique dans une Espagne catholique serait-il le grand gagnant de la crise? Ou bien peut-être le film fantastique low cost, comme le disait la dernière fois en novembre Angel Sala, qui était le directeur du festival de films de Sitges. Il était injoignable aujourd'hui encore une fois, il faudra donc y revenir.
Catherine Breillat, réalisatrice, cinéaste, peut-être un commentaire sur ce qui se passe en Espagne. Est-ce que vous étiez au courant de cette dimension absolument catastrophique du cinéma espagnol?
Oui, mais... Enfin non, je n'étais pas au courant, mais c'est évident que le cinéma est complètement maintenant l'esclave des télévisions, ce qui veut dire de la publicité. Et c'est ça la censure. C'est la censure financière. Donc évidemment, ça peut être que catastrophique malgré tout dans un pays qui en plus va mal.
Vous-même, vous avez eu des difficultés à monter votre dernier film, Abus de faiblesse?
J'ai des difficultés depuis mon premier film jusqu'au dernier.
Louis Garrel, je sais que vous êtes dans la préparation d'un futur long métrage. Des difficultés pour vous aussi ou ça s'annonce plutôt bien?
Non, parce que... Enfin, des difficultés, oui, comme tout le monde.
Comme, mais tout comme, le
monde, ouais. comme moi, je suis acteur avant tout. Mais je ne sais pas comment font les metteurs en scène qui écrivent un scénario. Mais ça, bon, c'est le métier de metteur en scène. Et qui ensuite attendent de l'argent pour pas que l'idée soit... Parce que ce qui est triste, au fond, c'est que quand un type a une idée, c'est sur le moment. Donc normalement, ça devrait se faire en 6 mois. Puis après, l'idée vieillit un peu, quoi. Voilà. C'est qu'il faudrait maintenant que des jeunes gens de 20 ans... qu'on leur donne des moyens de faire des trucs. Je ne sais pas à combien de milliers ou à millions, mais c'est vrai que je trouve ça difficile. Et encore une fois, moi, j'ai vraiment de la chance d'être acteur à côté, mais je trouve ça dur d'avoir une idée. Mais c'est normal, il y a des concours partout, mais je trouve qu'on devrait trouver... Il devrait y avoir une politique pour des jeunes gens. Parce que moi, bon, je suis devenu un jeune vieux maintenant, mais... Non, mais déjà, pour quelqu'un de jeune, maintenant, je trouve que ça devrait être plus facile de faire un truc.
Catherine Breillat?
Moi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que s'il fallait se laisser décourager, Romance, je l'ai fait 20 ans après l'avoir écrit. Moi, je suis très obstinée. Je pense que pour être un metteur en scène, il faut être très obstiné. Il ne faut pas être là, ça devrait aller vite. 36 fillettes, j'ai mis 6 ans pour le faire. Bon, une vieille maîtresse, je l'ai lâchée pour Romance. Donc, je l'ai fait 10 ans plus tard. Un sujet doit être éternel. Regardez, vous jouez une pièce magnifique qui n'a pas été écrite aujourd'hui. Et pourtant, c'est entièrement moderne.
Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tous les jeunes gens maintenant, là, enfin, les gens de ma génération, comme Justine Triet, qui a fait la bataille de Solferino, La fille du 14...
Tonnerre, Guillaume Rau, en effet.
Il y a Dubol, s'il a fait Un monde sans femme avant. C'est des gens qui font des films très peu chers, au fond, et ils le font vraiment coûte que coûte. Quoi. Donc après, c'est dommage qu'on leur donne pas un peu des trucs. Non, mais parce qu'en fait, c'est difficile d'échapper. C'est parce que vous me posez la question, c'est difficile d'échapper au refrain. Ah, le monde est en crise. Le cinéma, il est en crise depuis le début. C'est un truc très compliqué, c'est à la fois une espèce de grosse industrie qui charrie des trucs sentimentaux, des histoires qui sont là un peu, je sais pas comment dirais-je, compliquées. Mais à la fois, non, je dis, moi, je pense toujours aux jeunes gens de maintenant. Parce que c'est vrai que j'ai envie de voir des films de gens de 20 ans maintenant.
Mais il y en a plein en ce moment.
Mais on est hyper tous déprimés, quand on est tous là à entendre les trucs fachos dans la rue, j'en peux plus, moi. J'ai juste envie de voir des gens de 20 ans ou qui font de la musique ou qui font des films. Donc je dis maintenant, il faut donner... Au fond, il devrait y avoir une politique maintenant. C'est que la jeunesse qui devrait faire des trucs.
Parce
que sinon... Non, mais sinon, on va se linguer. Non, mais c'est vrai. Non, je déconne pas, moi. C'est vrai. Il devrait y avoir une politique de la jeunesse. Parce que moi, quand je les rencontre, les gens de 20 ans, ils sont tellement enthousiastes. Évidemment, il y en a qui sortent dans la rue en disant collabo, journalistes, francs-maçons et sionistes, tous dehors. Mais des gens de 20 ans qui sont tellement forts et intelligents aujourd'hui. Voilà, c'était ma réponse.
Il y a des gens de 80 ans
qui sont
très enthousiastes,
attends,
plus jeunes que des vieux qui ont 20 ans.
Je suis d'accord avec vous, donc, Catherine, mais...
Bon, voilà, je dis...
Non, mais moi, je dis, évidemment...
C'est pas le combat des générations,
d'accord,
de
mais je veux bien voir le. Non, mais je veux bien voir le dernier film d'Olivera, c'est pas une contradiction.
Oui, il a 110 ans, je sais pas combien maintenant.
Il a 100... Non, il a pas encore 100, je crois. Oui. Il a 102.
Ah si, il a déjà 100.
Ah si, 100, on l'a fait.
Il les a.
On l'a fait à Berlin...
Même des films de jeunes cons.
À Berlin, au moment de...
Mais je veux bien même voir des films de jeunes gens de 20 ans qui sont complètement débiles.
Ça existe, ils sont vieux surtout.
Non, mais c'est...
L'académisme, c'est le conformisme qui rend vieux. Sinon, et ça, il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge pour être anticonformiste et jeune non plus.
Je suis d'accord.
Mais il y en a moins qui restent anticonformistes vieux, c'est tout.
Non, mais c'est ça que c'est en ce moment, de se lever le matin en France, c'est plombé là.
Les brèves, Benoît Lagane.
Eh bien, on ouvre ces brèves avec les diverses marches pour la culture qui avaient lieu aujourd'hui un peu partout en France. Et selon la CGT Spectacle, des milliers de professionnels de la culture ont défilé aujourd'hui de la place de la République jusqu'au ministère de la Culture à Paris. En région, ils étaient une centaine à se réunir à Lille ou à Marseille. 80 personnes se sont également rassemblées à Montpellier, dont le siège de la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault.
Et outre les coupes budgétaires, quelles sont leurs craintes ?
Eh bien, les manifestants craignent de nouvelles baisses sur les budgets culturels de l'État et des collectivités territoriale. Ils redoutent également le résultat des futures négociations de l'assurance chômage sur les intermittents du spectacle. Pour le leader de la CGT, je le cite, « La ministre de la Culture doit être très contente de cette mobilisation qui lui donnera du poids dans ses négociations avec Bercy, alors que les arbitrages lui ont toujours été défavorables. »
Les élections européennes bouleversent le Festival de Cannes.
Oui, exceptionnellement, cette année, le palmarès du 67e Festival de Cannes sera dévoilé cette année un jour plus tôt, sur le samedi 24 mai, la veille de la clôture du festival, de manière à ce que l'annonce du palmarès ne coïncide pas avec les élections européennes. Le dernier film de la compétition sera donc projeté le vendredi 23 mai. Le jury délibérera le lendemain pour désigner les lauréats.
Pendant ce temps-là, au Danemark.
Bien, la télévision publique danoise a annoncé aujourd'hui que le réalisateur Gabriel Axel venait de mourir à l'âge de 95 ans, connu pour Le Festin de Babette, Oscar du meilleur film étranger en 1988, et dit-on film préféré du pape François. Bien, Gabriel Axel, formé au Théâtre Royal de Copenhague, a été remarqué également en France pendant plusieurs années comme acteur au sein de la troupe de Louis Jouvet.
Pour terminer, la petite histoire du soir.
Eh bien, ce soir, Laurent, une petite histoire qui ne passe pas, relatée dans un quotidien californien, The Carmel Pine Cone, et relayée depuis ce week-end un peu partout dans de nombreux médias, c'est dire son importance. Je vous raconte. Tout commence lors d'une soirée de gala organisée lors d'un tournoi de golf à Pebble Beach aux États-Unis. Et lors de cette soirée et du traditionnel buffet, le directeur du tournoi, Steve John, apparemment très attiré par un bout de fromage alléchant, finit par s'étrangler en avalant de travers le dit bout de fromage. Mais voilà, pris de panique, cherchant autour de lui un bon samaritain, comme dans un bon vieux numéro de la Nuit des Héros, Steve John finira fort heureusement pour lui, par croiser le regard d'un homme qui aura le geste qui sauve.
Et qui est donc ce héros ?
Eh bien, ni plus ni moins que l'inspecteur Harry, ce bon vieux Clint Eastwood, qui a déclaré aux médias « Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu ce regard de panique que présentent les gens qui voient leur vie défiler devant leurs yeux. » Que c'est beau. Clint soulève...
C'est presque un Alexandre.
Voilà. Clint soulève alors l'homme de 95 kilos par les épaules, une fois, deux fois, et au bout de trois, le bout de fromage s'éjecta. Moralité, comme l'a déclaré Steve John à la presse, Clint a encore une sacrée force.
Toi, t'es trop porté sur les nouilles, tu suivrais pas. Couche-toi, fumier de poulet.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
C'est mon plus beau costume.
T'es un drôle de gars.
Merci, Benoît Lagane. On se retrouve demain.
Bien sûr.
Je pense que je ne dirai pas la même chose de vous par rapport à ce Steve Jones. Plateau Dépossession avec vous, Catherine Breillat, cinéaste et écrivaine. Mercredi prochain va sortir votre 14e long métrage, À bout de faiblesse, dont l'histoire s'appuie sur ce que vous avez vous-même vécu. Une cinéaste, Maud, jouée par Isabelle Huppert, est victime d'une hémorragie cérébrale. Et alors même qu'elle prépare son nouveau film, elle tombe en regardant la télévision sur celui qui sera son acteur principal, Vilko, interprété par le rappeur Kool Shen. C'est son premier grand rôle à l'écran et il est absolument formidable. Vilko est un voyou médiatisé pour avoir escroqué de nombreuses célébrités et progressivement, il va profiter de la faiblesse physique et psychologique de la cinéaste pour s'immiscer dans sa vie et les soutirer de fortes sommes d'argent. On est bien sûr dans la fiction, mais on peut penser aussi à Christophe Rocancourt qui a été condamné pour abus de faiblesse envers vous. Bande annonce.
Faut pas te faire d'illusions, hein, Jean-Paul. C'est le naufrage du Titanic. Mais si j'arrive à remonter à la surface, alors je serai une bombe atomique. Hein.
Tu seras.
Plus rien pour résister.
Vous avez vraiment escroqué 35 millions d'euros.
C'est pas mal pour quelqu'un qui vient de rien, non ?
Alors pourquoi vous m'avez fait venir ?
C'est pour mon prochain film.
Ouais, ça m'intéresse, à condition de ne pas faire d'essai.
C'est l'histoire d'un homme un peu frustre qui tombe amoureux d'une star.
C'est beau d'entendre ta petite voix tout en sommeillère. Je veux que tu me rappelles tous les matins.
Très vite, il devient l'amant caché. Et elle, elle est prise comme dans une souricière dans un univers clos.
Quoi, genre, ça te fait aucun effet, tout ce pognon par terre ?
Oh, ça va, oh !
T'aimes ça, toi, humilier les hommes, hein ?
Enfin, un chèque sans provision de 100 000. Si tu peux pas m'aider, je suis cuit, c'est tout.
Ouais, là, tu mets prêt. Bah, comme ça, si les flics te demandent, bah, tu leur diras que c'est un prêt.
Mais c'est un prêt. Mais qu'est-ce qui te prend? Oh, dis donc, mais qu'est-ce qui te prend là?
Débarrasse-toi immédiatement de ce type, il est dangereux.
Mais toi, tu me fais un chèque de 500 000.
Fous ma gueule ou quoi? Si t'es pas content de m'en avoir prêté, fallait pas.
C'est pour la caution, j'ai besoin de rembourser la banque.
Faut que tu viennes m'ouvrir ma porte, je peux pas toute seule.
T'as qu'à être gentil.
J'ai un commandement de l'AD Banque de payer 800 000 euros.
T'as compris? Rends-le-moi! Mais j'ai même pas de quoi m'acheter à bouffer pour demain!
Si t'as porté plainte, je te conseille de leur tirer vite fait.
Fous le camp. On vit toujours plus d'espoir que de désespoir.
Catherine Breillat, on l'entend, hein, c'est Isabelle Huppert, votre double de fiction, comme Anne Parillaud l'avait été dans Sex is a Comedy, comme Dominique Lafin l'avait été dans Tapage Nocturne. Comment vous vous projetez dans une actrice, vous-même qui avez été aussi actrice?
J'ai voulu être actrice, j'ai renoncé assez vite, c'est ma sœur qui est devenue actrice.
Oui, mais vous avez un petit peu joué aussi, chez Bertolucci.
Oui, là il m'a beaucoup appris. C'est de lui que je tiens le fait que la mise en scène, c'est la chorégraphie, figurez-vous. Parce que dans le dernier tango à Paris, il n'en reste pas beaucoup. Mais on avait un rôle assez important. Et en fait, le dialogue, à un moment, on les trouvait idiots, Maria, moi et Marie-Hélène. Et bon, lui, il faisait ses chorégraphies avec son chef-op pendant 3 ou 4 heures. Et on arrive sur le plateau, il nous montre les déplacements, comment et tout. Tout devenait beau. Alors, je mets en scène comme ça.
Lou Garrel, vous avez tourné aussi avec Bertolucci? La même expérience de chorégraphie?
Bon, non, on était à trois tout nus dans un bain. On devait fumer un...
Innocent.
On devait fumer un pétard. Évidemment, on fait des répétitions avec des joints, avec du tabac. Et ça tourne, évidemment. Je tire une espèce d'énorme bouffée. Il avait mis du hashish. C'est tout ce que j'avais à dire.
Ah oui, d'accord.
C'est l'aristocratie italienne qui se moquait du petit bourgeois français.
Vous pensez que c'est ça?
Non, pas du tout, mais c'est mon maître, Bernardo. Alors je dis ça pour rigoler. Et c'était ça dont je me rappelle le plus. Voilà.
Choisir Huppert pour vous aujourd'hui, Catherine Breillat, qu'est-ce que cela signifie?
Ça fait longtemps que je la voulais, qu'elle m'avait échappé.
Que je la voulais,
cette fois, je lui ai dit... Bon, j'ai décroché mon téléphone, je lui ai dit « Bon Isabelle, qu'est-ce que tu attends? T'attends que je sois morte ou quoi? C'est maintenant que tu dois faire un film. » Et voilà, on l'a fait. Ça a été immédiat.
Vous la vouliez pour quand, la première fois?
Parfait amour. Mais bien avant, je la connais depuis très très longtemps, Isabelle. J'adorais, c'était un visage pour moi, ça c'est sûr. Des couleurs aussi pour moi. Vous voyez, j'ai beaucoup de rapports avec la peinture. Ce côté, les cils, cette carnation qui va avec les cheveux, les cils, oui, en plus une merveilleuse actrice, mais aussi quelque chose du rapport avec la peinture et les couleurs. D'ailleurs, dans le film, ça compte beaucoup, si vous avez vu.
Oui, bien sûr, je l'ai vu. On va en parler tout de suite, justement, de la façon que vous avez eu de travailler la couleur, et notamment le blanc, parce que je sais que le blanc est très difficile à avoir au cinéma. Est-ce que Louis Garrel a été un acteur pour vous? À un moment donné.
Absolument, mais il m'a échappé.
C'était à quelle
non,
occasion?
Je vais demander de faire Rino de Marigny et il voulait se partager avec le théâtre et le théâtre a gagné.
Bah, c'était avec le Bondi, ouais, d'ailleurs, encore.
Le voilà. Deuxième? Avec Viol ou avec...
Moi, c'était Viol, ouais. Mais moi, il y a un film de Catherine que j'adore, qui est, je crois, difficile à trouver, c'est Bref Traversé, là, mais ça se trouve où, celui-là?
DVD américain, comme d'habitude.
Ça, c'est sublime, ça. C'est magnifique, ce film.
Tous les films sont difficiles à trouver. Enfin, pas tous.
Non, pour oui. Moi aussi. Hein, ça, je vous...
Non, parce que les autres, ils sont en DVD. Vous savez, la mafia qui édite les DVD à 2 euros, là, qui en mettent partout. Là. Ils se trouvent partout, vos films. Sauf Bref Traversé, c'est difficile à trouver.
Et qu'est-ce que ce film, en quoi ce film vous a marqué?
Bah, comme les gens n'ont pas vu, ça fait snob de dire j'adore celui-là.
Bah, c'est formidable, continuez.
Non, mais en vrai, non, mais celui-là.
C'est vrai, c'est un de ceux qui est préféré dans le monde.
Non, il est très très beau celui-là, vraiment très beau. Je sais pas, il y a une scène dans une cabine de bateau, à un moment donné, je sais pas, mais sublime. Quoi. Je l'avais vu pareil sur un petit écran, je l'ai pas vu au cinéma. Vraiment très très beau aussi. Romance, oui, ça m'avait choqué quand je l'avais vu.
Ah ouais?
Parce que vous étiez tout petit.
Non, mais la scène de la dernière image, là, j'ai été carrément choqué.
Ah bon?
Bah, l'enfant qui sort de la femme, plus l'explosion d'immeuble, là, j'étais choqué. Si, c'est vrai. Non, c'est vrai, non, sans déconner, je rigole pas.
Ben oui, mais moi, je trouve que c'est bien de faire un film très très lent, c'était ma théorie. Les gens sont là, ils se disent, on va sortir, on a tout vu, et puis non, ils n'ont rien vu.
Ouais, non, j'aimais bien. Ouais. Non, mais c'était bien.
Claire Maillot.
Oui, on sait qu'Isabelle Huppert a besoin de faire beaucoup de prises, alors que vous, vous êtes plus dans la recherche de la prise magique, presque de la sidération. Je crois qu'au début, il y a eu quelques tensions sur le plateau, elle l'a même quitté. Qu'est-ce qui s'est passé avec...
Elle n'a jamais quitté le plateau. Elle est allée parfois s'enfermer dans sa loge en claquant la porte, mais Isabelle est une très grande professionnelle et aussi fâchée qu'on soit, elle est là pour jouer le plan d'après et comme si de rien n'était, elle le joue. Si l'humeur de la scène doit être qu'elle rit, elle rit.
Qu'est-ce qui expliquait alors le fait qu'elle aille s'enfermer plus qu'elle ne quitte le plateau ?
Parce que moi, au début surtout, il fallait savoir de qui c'était le film. Le problème, c'est les acteurs disent « mon film ». Le metteur en scène dit « mon film ». Isabelle aime beaucoup contrôler. Moi, je ne veux pas que les acteurs contrôlent quoi que ce soit. Donc, il y a eu juste un bras de fer là-dessus. Un bras de fer rouillé, puisqu'on a cédé toutes les deux ensemble et on s'adore.
Alors, l'événement du film...
Mais le plus malin,
Louis Garrel, oui.
Le plus malin, c'est le producteur qui dit « votre film » et puis après, il prend les sous. Lui.
Il prend les dettes aussi, hein, les producteurs. Il ne faut pas commencer à les caricaturer comme des gens qui prennent les sous.
L'événement du film, et c'est souvent le cas chez vous, bien c'est l'acteur, un non-professionnel, Kulchen, notre réalisateur Thomas Beau, a été inspiré par cette direction de votre cinéma, montage de 8 films pour des liaisons dangereuses entre réalisatrice et ses comédiens.
Je sais pas par où commencer. Je comprends plus rien.
Ah, par contre, les figurants, ils font chier. Ils veulent pas se déshabiller, bah virez-les-moi. Qu'on les vire !
Voici comment le marché s'est conclu.
Alors pourquoi vous m'avez fait venir ?
Ça vous dérange ?
Qu'est-ce que t'as ?
De quoi s'agit-il ?
Je t'ai pas assez regardé.
Non, c'est vous qui m'intéressez.
Dis donc, tu montes ou quoi ?
Qu'espérez-vous ?
C'est pour mon prochain film. C'est le premier rôle.
Qu'est-ce qui te plaît pas ?
Vous vivez toute seule ?
Et si on te laisse là, toute seule, ça ira mieux ?
Pourquoi vous exhibez-vous ainsi ?
Alors racontez-moi la fin et si ça me plaît, je le fais, votre film.
Voici comment le marché s'est conclu.
Connasse.
Si tu veux me torturer ou quoi, t'es sadique. Tu ris de tout, toi.
Bah habitue-toi parce que je vais pas faire de vieux os. Hein.
Tu barres pas, mec. Tu barres, qu'est-ce qui te prend?
Donc nous n'y pouvons rien.
Non. On n'y pouvait rien.
Parfait amour, anatomie de l'enfer, à ma sœur, à but de faiblesse, une vraie jeune fille, romance, 36 fillettes, sexist comédie et bien entendu donc le film que vous réalisez aujourd'hui. Un commentaire sur ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire beaucoup de comédiens qui ne sont pas à la base des comédiens professionnels ou dans d'autres cadres. Je pense à Rocco Siffredi. On n'a pas trouvé Alain Soral que vous aviez fait tourner à l'époque.
Aussi. Ah oui, dans Parfait amour.
Dans Parfait amour,
le DVD n'est que chinois et américain.
Une réaction sur ce que l'on vient d'entendre, donc cette recherche véritablement d'un acteur qui n'est pas professionnel. Pour quelle raison ?
Il y en a plusieurs, c'est qu'au début, les agents ne voulaient absolument pas que les acteurs tournent avec moi à cause de ma réputation sulfureuse. Aussi un moment de plus mauvais metteur en scène du cinéma français.
Je crois que c'était Marguerite Duras qui avait eu ce titre à une époque.
Ah non, ça c'est moi. Elle avait le respect quand même. À moi quand même, j'ai le président d'Unifrance Film qui a traversé l'Atlantique pour expliquer au Festival de New York, sur 2 pages dans le New York Times, que 36 fillettes n'étaient pas représentatives du cinéma français. Voilà. Alors, comme je joue avec les mots, je m'en suis fait une gloire. Et quand je dis... en disant ben, « tant mieux », et du coup, les gens me trouvent arrogante, mais non. C'est une plaisanterie, c'est la tirade du nez de Cyrano.
Qu'est-ce qui se joue pour vous quand vous dites d'un acteur « il est à moi » C'est la scène, par exemple, quand Isabelle Huppert voit Kulchen sur l'écran de télévision.
J'ajoute toujours une chose. Celui-là, il est à moi s'il sait jouer. Le « s'il sait jouer » est toujours quelque chose qui est un codicille fort important. Que visiblement, les journalistes ont perdu de vue quand je vois quelqu'un. On laisse parler un non-acteur. Il faut le ferrer. Il faut quand même... D'abord, on le regarde. Il faut savoir si on en a toujours envie en vrai. Et le vrai ne compte pas. Moi, les acteurs, je ne les regarde que à travers un écran. Le jour où je les mets devant un écran, c'est mes images à moi. Je fais d'abord des improvisations. Après, là, il y a du déchet. Après, je fais sur le texte. Et là, généralement, il n'y en a qu'un ou il n'y en a qu'une. Et vous voyez, Rino de Marigny, justement, puisqu'il n'a pas voulu le faire.
Louis Garrel, oui.
C'est plus compliqué que ça. Elle m'a motivé virée aussi, attends.
Oui, il y a une...
Vous l'avez virée ?
Moi, je peux dire les mots exacts.
Ah oui, c'est quoi ?
Ah oui.
Louis Garrel.
Non, un jour, c'est parce que j'avais ce projet-là, donc l'adaptation d'une vieille maîtresse là, de Barbet d'Aurevilly. Ouais. Et puis, à un moment donné, bon, comme je disais tout à l'heure, l'argent ne se trouvait pas tout de suite, donc le projet se repoussait, puis je devais faire un truc au théâtre. Et un jour, je dis à Catherine, on se voyait souvent, hein. Je dis, est-ce qu'on pourrait envisager que, avec les dates prévues maintenant, la pièce, comment est-ce que je pourrais faire les deux ? Elle me dit, ah, ça, Louis, non. Alors, je dis, bon. Et puis, deux semaines plus tard, je l'appelle, je dis, qu'est-ce qui se passe, Catherine ? Là, il y a un silence, là, je sens que c'est bizarre. Elle me dit, Louis, à cette terrasse de café où tu es venu me dire que tu voulais aussi faire la pièce, tu avais la chemise détachée comme Bernard-Henri Lévy.
C'est rédhibitoire.
Et ça, si tu veux, j'avais un côté BCBG qui ne me convient plus, je veux te faire passer des essais maintenant. J'ai dit, écoute Catherine, non, on va faire des essais, c'est absurde. Donc ça, j'ai dit, on travaillera une autre fois ensemble. Catherine a dit, voilà. Et au milieu, il y avait Asia Argento. Alors, il faut s'imaginer quand même Asia Argento.
Qui avait le rôle titre dans La vieille maîtresse.
Qui avait le rôle titre, avec qui j'étais aussi en rapport. Enfin bon, bref. Que je voyais de temps en temps. J'avais rejoint dans un bouge, comme on dit, tu sais, dans les... avec Gaspard Noé, je me rappelle. Il était en train de prendre un verre, puis je suis allé là. Enfin, c'était un bordel vraiment marrant. Mais c'était marrant.
Catherine Breillat.
Ah, je ne me souvenais pas, mais alors je suis odieuse. Alors là, je
peux vous le confirmer.
Non, le pire, c'est que vous avez dit, je vais vous faire passer des essais avec la maman et la putain. Alors ça, j'ai dit ça, la maman et la putain, merci. Vous ne vous rappelez pas de ça ?
Oui, parce qu'à l'époque, je faisais passer tous mes essais sur le texte de la maman et la putain, ouais, femme ouais. Et garçon. Tous.
Pour quelle raison, ce texte-là, précisément ?
Parce que d'abord, c'est très littéraire. Je pensais que Eustache, c'était déjà... Moi, c'est très, très littéraire, très écrit. C'était le plus littéraire qu'on pouvait trouver avec Romère. Donc, si je faisais passer des essais sur ça et Jean Eustache, c'est plus violent, ça me ressemble plus, je pouvais choisir mes acteurs. Jusqu'au jour où j'ai compris que moi, j'étais beaucoup plus difficile. Alors maintenant, je le fais passer sur des textes à moi.
Claire Maillot, une dernière question.
Ouais, j'ai pu lire que vous vous serviez parfois du personnage de Jean-Yann pour écrire des rôles masculins, c'est-à-dire
tout le temps. Moi, vous savez, comme j'aime Babydoll, c'est quand même pas un... Bon, eh bien, oui, Jean-Yann, pour moi, c'était l'homme comme on les aime quand on les déteste, avec un côté hyper sexy, mais qu'on ne veut pas tellement montrer, vulgaire, une manière de parler abrupte. J'adorais. Donc je m'inspirais tout le temps de lui, je l'imaginais lui dans presque tous mes rôles, y compris les scénarios que j'écrivais pour d'autres personnes.
Et vous ne l'avez jamais fait tourner ?
Je ne l'ai jamais demandé.
Pour quelle raison ? Ça aurait été touché au fantasme, traverser le fantasme ?
Puisque j'aime beaucoup plus faire tourner des jeunes gens, je n'avais pas de rôle pour lui.
Oh, mais enfin, quand ils ont des chemises déboutonnées comme Bernard-Henri Lévy, c'est absolument...
Vous êtes dingue. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais non, j'ai eu à avoir une crise de rage et de jalousie parce qu'il faisait du théâtre.
Oh, oui, Louis ?
Ce que je ne sais pas de Catherine Breillat, c'est qu'elle a co-écrit le scénario de Police depuis
alors. Si, on le sait.
Ah bon, vous
ouais.
le savez ?
Ouais.
Pourquoi vous ne le dites pas ?
Parce qu'on l'a déjà dit la dernière fois qu'on l'a reçu.
Ah bon, d'accord.
Et justement, vous aviez ajouté quelque chose sur ce scénario, Catherine Breillat. Donc, vous aviez participé avec Piala au scénario de Police.
Je l'ai écrit.
Exactement, mais...
Je l'ai écrit, d'ailleurs, les menaces de mort que j'ai eues des truands, flic, ça fait peur un flic. Hein. Eh bien, quand je les ai eues, il y avait ça, il n'y avait pas... Sylvie Piala, qui avait écrit quelques virgules. Ah non, ils étaient réfugiés chez eux. Et ils voulaient faire l'intérimaire que j'avais également écrit pour Piala avec Isabelle Huppert. Bon, je peux dire que je l'ai écrit, mais j'invente jamais rien. Dans tous mes films, tout je l'ai trouvé quelque part, dans ma vie, dans la vie des autres, dans les faits divers. Et je fais un espèce de ciment comme ça, de patchwork. C'est le ciment, mon art.
Le rendez-vous extérieur.
Tout de suite, le questionnaire et autoportrait du lundi de Manu Farine. Dans la série Les professionnels de la profession, et bien ce soir, c'est la chef monteuse Sarah Turoche qui travaille auprès de Santiago Amigorena, entre autres. Questionnaire cinéma, Sarah Turoche, Manu Farine.
Le cinéma de votre adolescence.
Je crois que c'est Marcel Carné. Ce sera Les Enfants du Paradis et Renoir. Et je me souviens très très bien du Carrosse d'Or. Et après, ce seraient des films minables comme Dirty Dancing qui me marquent aussi fortement l'adolescence.
Le cinéma que vous associez à vos parents.
Godard. Aucun doute là-dessus. Peut-être Prénom Carmen. Je pense que ça fait partie de leur maître à penser ou dans une forme de liberté ou d'écriture qui n'existait pas avant.
Le film qui a pu vous donner envie de faire ce métier.
Je crois que le plaisir, qui est encore intact aujourd'hui, de rentrer dans une salle de cinéma, de s'installer avec d'autres gens pour voir un film, c'est inouï. Mais c'est plus ça, en fait, qu'un seul film.
Un monteur, une monteuse qui a pu fonctionner comme référence.
Je dirais Sabine Mamou, qui est la monteuse de Jacques Demy, et Martine Baraquet, qui a monté plusieurs films de Truffaut. Et la dernière, ce serait Nadine Muse, qui est la monteuse son, qui m'ont donné des choses que je retiens encore aujourd'hui dans la manière de monter. Comment regarder un rush? À quel moment s'arrêter? Et Sabine Mamou disait toujours quelque chose, quand tu t'arrêtes, il faut toujours que tu remontes deux images en arrière, puisque le temps que tu toi-même, la démarche est entre ton esprit et ta main, t'as deux images de décalage, c'est une petite chose. Et comment écouter les sons par rapport aux images, pour retrouver des nouveaux sons.
Premier montage.
Le film de fin d'études d'Emmanuel Mouret. C'est « Promène-toi donc tout nu », c'est son film de fin d'études. On était donc ensemble à la Fémis, j'ai monté tous ses courts-métrages, tourné en 16, qu'on a monté en 16, donc en pellicule. Il y avait deux choses. D'abord, c'est compliqué de monter un film quand le réalisateur est le comédien. Il faut savoir un peu gérer les deux égos. Et quand on s'est aperçu qu'en fait, ça fonctionnait à l'extérieur, ça, c'était un grand plaisir.
Le film qui, pour vous, serait une leçon de montage?
Ça, c'est une question compliquée, parce que quand on ne connaît pas les rushs, c'est toujours difficile. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'en effet, les films, dans les films récents, les films de Scorsese, c'est à chaque fois une leçon de montage. Mais sur un autre registre, je dirais que, par exemple, 9 mois ferme, c'est d'une comédie, c'est absolument parfait. C'est toujours difficile. La part du montage, elle est compliquée, parce qu'on ne connaît pas les rushs et on ne sait pas ce qui s'est passé dans la salle de montage. Les deux seules personnes qui le savent, c'est le réalisateur et la monteuse.
Première erreur de montage.
C'est sur un exercice d'avoir voulu tout raconter. De ne pas avoir compris que le montage, c'est l'ellipse. Savoir ce que raconte une scène et pas forcément... Parce qu'elle raconte profondément, intimement, mais pas ce qu'elle raconte juste dans les faits.
L'étape de votre métier qui vous intéresse le plus.
Le dérushage, c'est un moment passionnant parce qu'on découvre tout ce qui a été filmé. Mais peut-être après le premier montage, parce qu'on ne sait pas encore où le film va aller, on sait qu'il n'est pas là, et c'est le moment où on cherche. C'est quand même extrêmement ludique, le montage.
Une définition possible de votre métier?
Le montage, ce serait évidemment raconter des histoires, fictionnelles ou non hein, d'ailleurs, avec des images et des sons, ça c'est la définition du montage. Et moi je rajouterais d'accompagner un réalisateur à l'amener au film, qui est son film, mais aussi au film qu'il a tourné. Comme matière autonome.
L'autre métier que vous auriez pu faire?
Mais je crois que si j'avais pu faire autre chose, je ne ferais pas ça.
Sarah Turoche, merci.
Catherine Breillat, une réaction? Vous qui travaillez avec les mêmes monteuses, hein, Pascal Chavance, depuis 2001, depuis...
Depuis Amasseur.
Depuis Amasseur, 2001, oui.
Pour moi, il y a toujours eu plusieurs creusets de création pour un film. Évidemment, l'écriture. Après, c'est mort... Le scénario, il faut quand même l'oublier. Le choix des acteurs, parce que là, les dés sont jetés. Le tournage, parce qu'il y a un truc inconscient et je veux toujours que les acteurs me surprennent et surtout ne me jouent pas le scénario exactement comme c'est écrit, c'est-à-dire avec une convention. Il y a toujours quelque chose que j'ignore entre les lignes. Et ça, il faut me le donner. Et le montage, c'est pareil, c'est le dernier creuset. C'est une création. Et c'est pareil, il faut virer le scénario. On va le faire avec le matériau du film. Donc, la monteuse, moi, je dérush toujours avec elle, scrupuleusement. Après, je la laisse. Et tous les 3-4 jours, c'est elle qui m'appelle pour... comme ça, parce qu'on le fait ensemble. Mais jamais je suis à côté d'elle. C'est pas une coupeuse, une monteuse. C'est un art aussi.
Louis Garrel, vous, votre rapport au montage, puisque vous avez réalisé quelques courts-métrages, il va y avoir Le Lion dans quelques temps. Vous êtes à côté, vous dérushez?
Non, non.
Je ne suis pas là du tout.
Non, non, pas du tout, mais bon, c'est comme moi, depuis que je suis petit, j'ai eu la chance de fréquenter des gens comme Xavier Beauvois, par exemple. Xavier Beauvois, c'est vraiment l'homme du tournage, quoi. Après, le montage, par exemple, et le mixage, un type qui, si tu vas trop au montage, il te fout des coups. Quoi. Il dit arrête d'aller au montage, ton film va te faire chier, arrête d'aller au mixage. Parce que c'est vrai qu'il y a des metteurs en scène qui vont 10 semaines au mixage. Et Xavier, il va, je sais pas, 2 jours au mixage ou 3 fois au montage. Donc, C'est juste ça que ça me fait penser à ça. Sinon, j'aurais que des choses conventionnelles à vous répondre.
En voilà un qui m'a refusé de faire le rôle de Rocco Siffredi dans
Romance. Beauvois, c'était lui au départ.
Oui.
Ah, ça fait envie.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Confidence avec vous, Louis Garrel, comédien identifié depuis le milieu des années 2000 au cinéma de Christophe Honoré à celui de votre père, Philippe Garrel. On vous retrouve actuellement au Théâtre de l'Odéon à Paris dans Les Fausses Confidences de Marivaux dans une mise en scène de Luc Bondy. C'est la troisième fois que vous jouez sous sa direction. Il y avait eu Viol de Botostros, il y avait eu Le Retour d'Harold Pinter et cette fois vous êtes en scène aux côtés entre autres d'Isabelle Huppert, Yves Jacques, absolument formidable, Bulogier. Génial. Des comédiens qu'on voit beaucoup au cinéma. À ce sujet, je vous ai entendu dire que la mise en scène serait proche d'un film de Douglas Sirk, hein, qui est bien sûr le réalisateur de mélodrames somptueux des années 50 aux États-Unis, ou même d'une comédie romantique américaine. Vous avez parlé de cette interprétation avec Luc Bondy ?
Non, mais c'est même lui qui en parle. Je pense qu'il avait envie, parce que vous savez, Les Fausses Confidences, c'est une pièce célèbre pour un peu des gens, et... De temps en temps, elle est interprétée comme la manipulation ou une sorte de Rastignac qui voudrait épouser une femme pour son argent. Et je crois que Luc, assez rapidement, ça l'a un peu ennuyé, cette histoire de manipulation, même si on ne peut pas l'éviter, puisque la pièce raconte ça. Mais puis il voulait une fin optimiste. Il ne voulait pas une fin cynique.
Et la pièce n'est absolument pas cynique, d'ailleurs.
Pas du tout, mais je crois que c'est la mise en scène aussi de Luc, parce qu'on se pose toujours la question de savoir pourquoi on aime quelqu'un. Et en fait, je trouve que la direction de Luc, enfin sa mise en scène est la bonne, parce qu'en fait on ne sait jamais vraiment pourquoi on aime quelqu'un, et quand on appelle ça le triomphe de l'amour, qui est une autre pièce de Marivaux, c'est le triomphe de plein de choses, c'est le triomphe de, je sais pas, c'est du mensonge. Quand on dit je t'aime à quelqu'un, on lui ment aussi un peu, donc tout le temps. Il est ashkénaze, Luc Bondy, donc il est... Ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est parce que...
Si, ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Non, mais c'est parce qu'il est... Je disais ça pour rigoler, parce que la dernière fois, j'ai dit... Au fond, c'est toujours un peu à double sens, tout le temps, Luc. Même dans la vie, puis c'est la façon dont il travaille, il n'arrête jamais rien. Parce que je pense qu'un matin, il se lève, il voit la mise en scène, c'est ce qu'on essaie de lui représenter. Donc il a une idée, puis le lendemain, il en a une autre. Donc en fait, c'est son art, hein. C'est vraiment son grand talent. C'est de laisser tout le temps ouvert. De sorte que les acteurs, quand ils vont chaque soir sur scène... jouer la pièce devant les gens, ils ont toujours une nouvelle idée qui viendrait et qui leur donnera envie de jouer le spectacle.
Benoît Lagan.
Et à la fois, lors de votre première expérience avec lui, vous évoquiez le fait qu'il jouait les scènes, donc il était assez directif au final.
C'est pas ça, c'est qu'il a fait lui aussi, comme il a commencé comme acteur, il a fait une école qui s'appelait Jacques Lecoq. Donc il y a plusieurs sortes de metteurs en scène. Catherine, je crois qu'elle n'est pas comme ça du tout, mais il y a les metteurs en scène qui savent jouer, et puis il y a vraiment les metteurs en scène qui ne savent pas jouer, quoi, qui ne montrent jamais. Et Luc... Chéreau aussi, je pense, j'imagine, était un peu comme ça. Il montre toujours. Donc c'est assez génial parce que, en fait, c'est comme un dessin de jouer. Ce qui est compliqué, c'est quand on doit faire le dessin, qu'on a le crayon de couleur, de temps en temps, quand on s'éloigne du dessin et que le metteur en scène nous montre, d'un coup, ça paraît beaucoup plus simple en fait, à faire.
Ici, pour le rôle de Dorante, qui est le jeune intendant qui infiltre la demeure d'Araminte dont il est amoureux, est-ce que vous avez dû construire le personnage, c'est-à-dire par un geste ? Parce que j'ai pu lire, je relisais un entretien formidable d'ailleurs, que vous avez donné au Cahier du cinéma il y a 5 ans, et vous parliez d'acteurs ou d'actrices qui construisaient leur personnage, et quelquefois c'était autour d'un détail, d'un geste. Je pense par exemple, je crois que c'est Hélène Mirren dans The Queen, ou je ne sais pas trop qui. Et je me demandais comment vous...
C'était Johnny Depp qui a raconté que pour Edouard aux mains d'argent, on lui avait dit « Mais comment vous avez fait pour construire ? C'est un personnage de... génial ! » Ouais. C'est vraiment sublime. Il avait dit, j'ai mélangé la tête d'un chien qu'on va frapper, qui va se réfugier dans un coin, et Reagan. J'avais trouvé ça génial. J'ai dit, moi, je ne serai jamais joué comme Johnny Depp. Quoi. C'est très génial. Et puis après, non, mais ça, c'est autre chose. Parce que ça, on pourrait dire que c'est des compositions. Quoi. Là, je ne pense pas que le théâtre de Luc, en tout cas, cette mise en scène-là, il n'y a pas vraiment de composition. Mais c'est drôle parce que je suis allé dans une autre émission de France Culture où la jeune femme, là, qui était journaliste, m'a fait
entendre... Caroline Brouet, je pense.
Caroline Brouet. M'a fait entendre une interview de Laura Adler, de Maurice Garrel par Laura Adler, mon grand-père.
Votre grand-père, oui.
Et alors, il disait une chose à la fin, mais je pense que c'est... il distinguait deux choses. Il disait les acteurs et les comédiens. Il disait, alors, il y a les petits acteurs, les grands acteurs, les médiocres acteurs, puis ils quittent jamais eux-mêmes. Et puis après, il y a les comédiens. Je pense que lui, évidemment, ce qu'il avait visé toute sa vie, c'était d'être acteur.
Et vous ?
Moi, j'hésite encore, comme dirait Guillaume Depardieu, là, Matsupé. J'hésite encore. Non, mais moi, je ne sais pas trop, mais ce que je peux dire, c'est que, au fond, je ne sais pas encore. Je ne suis pas un très bon spectateur de théâtre parce que je ne sais pas très bien ce que j'aime. Je peux à la fois aimer Vincent Macaigne, quand
que vous allez faire tourner, que vous avez fait tourner régulièrement.
Ouais, qui est vraiment génial, lui. Enfin, parce que
et qui est l'emblème vraiment d'un nouveau théâtre français. Enfin, la façon dont on a d'être sur un plateau.
Bah, c'est-à-dire
du côté de la performance, du côté des TG Stan, par exemple, que vous admirez aussi.
Ce qui est génial, c'est par exemple Romain Gavras. Je ne sais pas si vous connaissez. Je parle que des jeunes. Hein. Enfin, que des jeunes, des mecs qui font des trucs bizarres. Romain Gavras, par exemple, c'est vraiment le prototype du mec qui va pas aimer le théâtre. Il est allé voir Vincent Macaigne, que sa mise en scène de Au moins j'aurais laissé un beau cadavre, et il est sorti en disant ah génial. Parce que Vincent, bon bref, voilà. Donc ça, Vincent, c'est des gens qui arrivent à mettre. Il a du bol, hein, parce que bon, nous, il y a des scolaires en même temps au théâtre de l'Odéon, mais c'est vrai que j'étais un peu jaloux parce que quand je vois le public de Vincent Macaigne, c'est trop cool. Ça, quand il sort, c'est la fête, quoi. C'est joyeux.
Et vous pensez que ça ne l'est pas quand on sort de l'Odéon ?
Si, c'est joyeux. Non,
mais c'est pas
joyeux.
La même chose, bien sûr. On
non,
pas
c'est pas la même
du
chose.
Du côté de la performance.
Non, mais Vincent, il me disait j'ai du bol, mon public est hyper beau. Il disait des trucs de.
Moi, j'ai
de
chez là. Je me trouve pas mal.
Samedi, c'est vrai.
Catherine Breillat.
Ah, mais parce que moi, je les vois pas, je dis ça. Il va être hyper vexé, les gens de l'Odéon, quoi.
Catherine Breillat. Oui ? Vous aimez le théâtre ?
Je suis un peu comme lui. Moi, j'ai eu du mal à aimer le théâtre. Parce que justement, l'image, moi, je la prends comme ça. C'est physique, c'est comme un sculpteur dans du marbre ou dans de la glaise.
Oui.
Et le théâtre, c'est l'architecture. Je me pose toujours la question, j'ai l'impression que je ne saurais pas le faire. Alors, ça m'agace. Mais j'ai beaucoup de mal à aller au théâtre, mais eux, je suis allée les voir, c'est formidable. Et je vous jure que je n'aime pas toutes les pièces où il y a Isabelle, où il y a... Non, et je la connais depuis très très longtemps. Bon, le tramway, je trouve ça inouï.
De Verlikowski.
Un metteur en scène, mais inouï. Je suis allée le voir à Bruxelles aussi, mais là, c'est incroyable. Mais là, je suis jalouse. La pièce, Luc Bondy, je suis jalouse. C'est formidable. Et effectivement, il y a cette dimension cinéma. Ce côté années 50-40, le côté comédie américaine, enfin la recréation d'une pièce, ce qui la rend jeune.
Ce qui est drôle, c'est... Non, parce qu'il y a des metteurs en scène comme ça qui font... Par exemple, Luc Bondy, je dis en fait, il déteste le théâtre. Mais il déteste à un point, c'est-à-dire... Mais c'est pour ça qu'il en fait, c'est parce qu'il déteste ça, c'est pour ça qu'il essaie de... Et évidemment, lui, il va jamais te parler du... Enfin, il peut parler de Peter Stein un peu, ou de Zadek, ou... Mais il va jamais. Le théâtre pour lui, c'est pas du tout. Évidemment, j'ai un autre aussi, ami, mec, je place tous mes amis. Sylvain Creusot, par exemple.
Ah oui, pareil, ça fait partie des collectifs.
Mais ils détestent le théâtre aussi, ils n'y vont jamais.
Les chaînes Navarre aussi détestent le théâtre.
Mais eux, alors, eux, ils sont attention parce qu'ils sont dangereux. M'a-t-on dit, j'ai jamais vu leur mise en scène.
C'est formidable. Dites-moi.
Bah, je sais pas, j'ai entendu dire qu'ils piquaient pas mal de trucs.
Non, mais ça explique tous les uns aux autres.
Ouais, mais les chaînes Navarre, ils piquent genre sans copyright, quoi. Genre vraiment, ils y vont, quoi. Mais ça, je dis ça, j'ai jamais vu, hein. Là, je fais genre, je réponds.
C'est la fausse rumeur.
Non, mais je réponds des rumeurs.
Ils sont un mois au théâtre.
En tout cas, moi,
allez vérifier.
En tout cas, j'ai un ami proche qui m'a dit ces mecs-là, c'est vraiment des raclures. Mais moi, je le dis, voilà, je dis ça comme ça.
Quel monstre. Dernière question, peut-être.
Oui,
on va pas y arriver.
Mais pardon à eux, je suis un ambassadeur. Hein. C'est-à-dire, je colporte la rumeur horrible, mais moi, j'ai jamais vu. Hein.
Vous êtes un corbeau.
Des raclures, on court les voir. C'est une bonne publicité.
Louis Garrel, à propos de cette dimension collective de la mise en scène dans le théâtre que l'on évoquait, vous vouliez faire la même chose. Vous voulez appliquer la même chose au cinéma. C'est ce qu'on a pu lire dans cet entretien d'il y a 5 ans là, au Cahiers du Cinéma. Est-ce que vous l'avez réussi là, dans les courts-métrages que vous avez faits ? Comment vous avez mis en scène, justement, collectivement, avec les comédiens que vous dirigez, donc quand vous faites vos courts-métrages et peut-être votre premier long?
Non, ça ne sera pas un collectif, mais... Non, c'était pas ça. Non, c'est parce qu'à l'époque où je parlais, c'est parce que j'avais fait un collectif de théâtre, mais on n'y est pas arrivé.
Enfin, d'ores et déjà.
C'était comme les groupes 2004. De rock. Espérons que les gens qui vont jouer ne vont jamais se séparer, mais c'est aussi dur que...
Non,
mais
ils séparent tous un jour ou l'autre.
Non, mais c'est très très dur de tenir un groupe de théâtre comme de tenir un groupe de... Regarde là les Strokes, ils sont en train de... Alors que c'était un hyper grand groupe. Julien Casablanca, un génie. Tac, ils sont en train de se flinguer, c'est horrible. Bon, bah nous, c'est un peu ce qui nous est arrivé, mais ils continuent. Ils ont travaillé un an et demi sur Le Capital de Karl Marx. Et ils vont à Angers dans un mois et demi. Ils seront à La Colline en septembre prochain. Et j'ai une immense admiration pour eux. C'est Sylvain Creusot qui est plus ou moins le metteur en scène. Et vraiment, c'est assez génial ce qu'ils font, vraiment.
Le rendez-vous, 10h. La session.
Eh bien, le temps est passé très vite, parce qu'on n'est même pas arrivé à la moitié de l'entretien qu'on voulait avoir avec vous, Louis Garrel. Tout de suite, c'est la musique, Mathieu Conquet, actualité. Rocky.
Et ce soir, c'est Rocky. C'est un des groupes dont on parle beaucoup depuis l'année dernière. Et pourtant, ils ont publié qu'un court album, Rocky. On va traduire rocailleux ou branlant. Ça a peut-être à voir avec leur musique, plus en tout cas qu'avec le boxeur. Trois filles, un garçon. Ils viennent de Lille et de Paris. Mais à l'évidence, la carte et le territoire, il faut étendre ça un peu plus pour eux. Ils publient un premier EP qui est à peu près aussi osé que le nom du chouette groupe. C'est ni disco, ni house, ni reggae, ni garage. Voilà, vous allez bien voir ce que c'est. En direct sur France Culture, Rocky, Laurent est à la guitare, Tom au clavier, programmation, Olivier au au clavier plutôt, et c'est la voix d'Inès Cocou. Chase the Cool en direct sur France Culture.
And if your heels are too high, just clap your hands. And if your pants are too tight, just clap your hands. You chase the cooling bed.
Rocky en direct sur France Culture. Rocky seront en concert samedi 15 février au 104, c'est à Paris. Vendredi 21 à la Condition Publique, c'est à Roubaix. Samedi 22 février à l'Autre Canal à Nancy. Le 8 mars à Chamonix, ça continue jusqu'en avril. Rocky, l'EP est paru sous le label Green United Music.
C'est le ciment, mon art.
J'ai mélangé la tête d'un chien qu'on va frapper, qui va se réfugier dans un coin, et Reagan.
Un sujet doit être éternel.
Merci à nos invités. Catherine Breillat, Abus de faiblesse, sera mercredi en salle. Louis Garrel, Fausse confidence, c'est jusqu'au 23 mars au Théâtre de l'Odéon à Paris, puis ce sera en tournée. Et vous savez, le public de l'Odéon, il peut être beau aussi quelquefois. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et demain ? J'ai rien compris. Demain, une émission cinéma et musique avec le cinéaste Pavel Pavlikovski, le pianiste jazz Bruno Fontaine, la session musicale Mathieu
Rodrigo Amarante.
Je rappelle que cette émission est toujours en partie. Vous avez une drôle de voix.
Magnifique. Pour lui, il faut ça.
Adorer avoir cette voix-là. Je rappelle que cette émission est toujours en partenariat avec Anou Paris, qui cette semaine met à son sommaire un entretien avec Koulchen, qui revient justement sur son travail d'acteur chez Catherine Breillat.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Mathieu Conquet, Benoît Lagan, Xavier Martinet, Claire Maillot, Elissa Touendaï et Elodie Royer. À la prise de son, Kevin Lebars et Tristan Gratalon. À la réalisation, Thomas Beau.
Je signale que l'on peut bien sûr télécharger cette émission. Il est 19h54. Vous écoutez France Culture, c'est bien. Ça vous fait rire, Claire Maillot ?
Non.
Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec les grandes lectures de France Culture sous un petit format. Mais si vous riez, Denis Podalydès lit voix off. Alors bonne soirée à tous.